I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Là, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast sur Salut Big Rusty. Aujourd'hui, salut. On va parler du planning potentiel de l'UFC pour la deuxième partie d'année. Vous le savez, on en avait déjà parlé. Là, on est un peu dans le creux de la vague du côté de l'UFC pour le 30e anniversaire de l'organisation. Pour ma part, un peu déçu, et déçu d'autant plus que l'International Fight Week, donc l'événement de juillet, qui est censé être un gros event pour l'UFC, là, je peux dire un peu sacrifié, mais on voit bien que c'est pas la priorité numéro 1. Sauf que là, Dana White, le même jour où Francis annonce sa signature au PFL,
ou le lendemain, je crois, ouais.
Ou le lendemain pour nous, mais le même jour pour les États-Unis.
Ah ouais.
C'est ça. Et donc, exactement le même jour, Dana White fait une petite vidéo sur YouTube où il annonce la carte de l'UFC 291 où honnêtement il n'y a que des bangers, main event Dustin Poirier contre Justin Gaethje, et pour le reste de l'année potentiellement là on est sur un run monstrueux. On va voir ça avec Big Rusty, générique. Swear.
Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un chaos?
Paris sur les meilleures cotes avec une Unibet.
Gaethje contre Poirier pour le titre de BMF, Baddest Mother on the Planet.
Ça, tu t'es pris les pieds dans le barbecue.
Ouais, exactement.
Vas-y, redis-le, voir si t'es un homme.
Non, je vais pas le redire. Et donc, parce que là aussi, Dana White dans la vidéo YouTube, comme Masvidal a pris sa retraite, c'est bon, le titre est de nouveau en jeu. Ça me fume tellement quand on y pense. Pour dire, voilà, c'est logique. Ensuite, donc, wow, pardon, ça c'est le 29 juillet, autant pour moi, le 29 juillet pour Poirier contre Gaethje 2. Ensuite, le 19 août, et là aussi, Dana White a mis un petit coup de pression à Aljamain Sterling qui a dit bon bah écoutez on va faire ça au mois de juin, non ça va se faire au mois d'août, le 19 août prochain pour le retour de l'UFC à Boston, Sterling contre O'Malley, titre bantamweight. Et là pour le coup c'est sur le papier, donc là il y a pas mal de combats qui sont ajoutés, c'est un main event qui aujourd'hui vous pouvez peut-être vous dire que c'est pas on va dire le plus ronflant, mais je pense moi personnellement qu'on peut avoir un événement toute proportion gardée à la Chan Mendes Conor McGregor. Si Sean O'Malley s'impose, déjà l'ambiance va être complètement dingue dans l'avant-combat parce que c'est sa ville, parce que c'est chez lui, parce que tout est fait pour qu'il s'impose le 19 août prochain, mais on peut vraiment avoir la naissance d'une superstar avec cette soirée-là. Ensuite, au mois d'octobre, au mois de septembre, j'ai beaucoup de mal. Donc l'UFC a signé un deal, et on en parlait avec Big Rusty en off, ils sont vraiment trop forts, avec le gouvernement local en Australie, pour que l'UFC, les 4 prochaines années, fasse 3 pay-per-view à Sydney. Et donc là, ça va être Adesanya contre, pour le moment, on ne sait pas qui. Avec Rusty, on s'interrogeait, n'est-ce pas Rusty?
Ouais, oui, parce qu'on était en train de se dire, alors c'est possible que ce soit le gagnant donc de Whittaker versus Duplessis, puisque le combat aura lieu en juillet. Ça fait quand même assez court, c'est ça qu'on se disait. Parce que le problème, c'est que c'est le 8 juillet, c'est ça, hein, Dricus versus Whittaker. Donc, si jamais le gagnant prenait Adesanya, ça ferait 2 mois et demi pour se préparer pour Adesanya. Et il y a quand même de grandes chances que le gagnant ce soit Whittaker, et ça me paraît très fou que Whittaker accepte de reprendre le combat contre Adesanya immédiatement, parce qu'en termes de préparation, c'est immédiatement, après son combat contre Dricus Duplessis, sachant que c'est le combat qui représente tellement pour Whittaker que le prendre enchaîné comme ça directement, sans même s'arrêter des camps d'entraînement pour Dricus et pour Adesanya, alors que c'est un combat qui veut autant dire pour lui, ça me paraît très fou qu'il accepte. Alors c'est possible, si jamais l'UFC lui met un coup de pression en mode, bah en fait c'est soit maintenant, soit tu n'auras plus jamais la chance d'affronter Adesanya, probablement qu'ils ont les moyens de le faire parler, de le faire plier, mais c'était soit ça, soit effectivement, peut-être toi tu es allé du côté peut-être de Adesanya versus Jamal Hill, et ce qui n'est pas si déconnant.
Ouais, Adesanya, Jamal Hill, en fait j'ai vu pas mal de choses sur Twitter qui aucune d'entre elles n'est vraiment déconnante. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui.
Faut dormir.
Exactement. On a Ramzat Chimaev potentiellement. Il mettait potentiellement directement le title shot contre Israel Adesanya. Potentiellement aussi Adesanya qui ferait donc le combat contre Jamal Ali. Pourquoi ça a du sens? Parce que peut-être squeezer du côté de l'UFC, parce que vous allez le voir dans le reste du planning, à aucun moment on ne parle du retour cette année de Jiří Procházka. Et en gros, l'une des théories, ce serait que, donc vous le savez, à l'UFC 291, le 29 juillet, on a le retour aussi d'Alex Pereira contre Błachowicz, et qu'en gros, en septembre, Adesanya tente de devenir champion face à Hill, qui stylistiquement est plus favorable qu'un gars comme Błachowicz contre lui, qu'ensuite, oh là il là fasse là la trilogie en light heavyweight pour le titre heavyweight, light heavyweight qui sera désormais propriété d'Adesanya si Adesanya vient à battre Hill et que Pereira vient à battre Błachowicz.
En vrai, t'imagines le truc. En vrai, ça deviendrait l'une des histoires les plus folles de l'histoire des sports de combat, Adesanya versus Pereira.
L'histoire de l'humanité.
Ils se seront affrontés partout, sur tous les terrains, dans toutes les catégories, dans toutes les disciplines. Ils se sont mis KO l'un l'autre. Enfin, si jamais c'est un plan de l'UFC, et de toute façon, ils voient toujours 10 coups en avance, c'est Fischer, ça pourrait être effectivement un combat qui serait unique dans l'histoire du MMA, qui serait unique, enfin même dans l'histoire des sports de combat, il y en a plein des rivalités légendaires, mais des rivalités qui se déclinent dans autant de disciplines, sur autant de temps et avec une telle diversité dans les résultats et dans la subversion des attentes. Franchement, là, tout de suite, comme ça, j'en vois pas d'autres. Hein.
Same here, Rusty.
Ce serait fou, effectivement.
Ce serait complètement dingue, et ça aurait du sens. Ça aurait du sens, pourquoi je dis ça. Ça aurait du sens, surtout que l'avantage, c'est que ce combat-là est prévu le 9 septembre. Dana White a dit, on va bientôt annoncer ce qu'il y a, avec un petit sourire en coin. Peut-être que l'UFC, quoique ça ferait peut-être un peu court, mais ce que je me dis aussi, c'est que l'UFC se laisse le temps, je pense, de voir ce que va donner Dricus du Plessis contre Whittaker. Quand je dis ça, je pense que si Whittaker s'impose, ils ne vont pas faire Whittaker Adesanya 3. Par contre, si Duplessis s'impose, direct, ils font Duplessis contre Adesanya. Et je pense, là aussi, pour un mec comme Duplessis, pour lequel déjà qui a été catapulté vers le combat contre Whittaker, je pense que pour lui, qui est aujourd'hui numéro 1 Whittaker, après s'être imposé contre Derek Brunson pour Dricus Duplessis, ça fait quand même un gros, gros gap. Je pense qu'aujourd'hui, Duplessis, même si c'est une courte période de temps pour se préparer entre les deux, il va le faire parce que c'est, ouais, je peux dire, qu'il aura plus jamais cette opportunité, mais ce serait compliqué pour lui. Donc à mon avis, en fonction du résultat du combat du 8 juillet entre Whittaker et Duplessis, ça pourrait, y a pas mal de choses qui pourraient changer. Donc voilà, affaire à suivre de ce côté-là. Nous étions au 9 septembre, UFC 293, qui se déroule à Sydney. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura Adesanya. Contre qui? Point d'interrogation. Ensuite, le 21 octobre, c'est désormais traditionnel l'arrivée de l'UFC sur la Fight Island d'Abu Dhabi. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura Islam Makhachev en lightweight. Mais contre qui? Parce que là, pour le coup, il y a pas mal d'options possibles. À commencer par Volkanovski, mais ça fait peut-être un petit peu rapide, puisque lui combat le 8 juillet à l'International Fight Week. C'est lui le main event contre Yair Rodriguez. Et sinon, le vainqueur de Dariush contre Oliveira, peut-être. Et les deux s'affrontent au mois de juin, UFC 289 à Vancouver.
Ouais, c'est pour ça, probablement. Je vois mal comment ça pourrait être autre chose que ces deux-là, parce que ce sont les deux avec lesquels il y a une histoire potentiellement. Et puis, dans tous les cas, même si c'est Dariush, ça fera à la limite du sang frais, et puis il aura battu Oliveira, donc ce serait parfait. Mais ouais, même pour Volkanovski, effectivement, ça fera un battement de, de 3 mois, enfin ouais, un truc grosso modo 3 mois, ou de septembre, ouais, même un peu plus. Donc je pense que si jamais il a l'occasion et qu'il prend pas trop de dommages dans son combat contre, et qu'il le gagne, et son combat contre Yair Rodriguez, Volkanovski, je pense qu'il y a vraiment moyen. Après, je pense que ce sera surtout en fonction de Makhachev, dans le sens, est-ce que Makhachev sera chaud pour reprendre Volkanovski direct? En tout cas, les dernières fois qu'on l'a entendu en parler, il était pas très chaud, mais de toute façon, c'est l'UFC qui décidera, donc à voir, effectivement, ouais. Et puis si c'est Oliveira, c'est très bien aussi, ça fait un combat dont tu sais que ce sera spectaculaire, ouais. Et puis, c'est... Des belles options.
De belles options, intéressantes. En common event, selon toute vraisemblance, on aura Chimaev. Mais contre qui, là aussi, la question se pose, parce qu'on était parti pour un Chimaev contre Costa. Vous le savez, Paulo Costa, finalement, sera de la carte de l'UFC 291 le 29 juillet prochain dans l'Utah. Paulo Costa aussi, et son importance, a beaucoup, beaucoup de mal à faire le poids en moins de 84, donc middleweight. Je le vois mal enchaîner deux cuttings, et je vois mal aussi le combat se faire en light heavyweight. Donc je vois mal Paulo Costa enchaîner deux cuttings aussi courts.
Et surtout, je vois mal Paulo Costa combattre tout court. En fait, parce qu'il a dit
on
que
s'est
l'UFC...
changé le... Exactement, ouais. Ça m'énerve, moi ça m'énerve.
Ouais, non mais pareil, en fait là ce qui est chiant c'est que encore une fois, donc Paulo Costa, quand un gars sur Twitter lui a demandé, bah alors, du coup c'est bon, c'est officiel là que tu combats Liskerov ou c'est encore l'UFC qui met des douilles, et il est en mode, non, il mente. Donc probablement, peut-être, on n'en sait rien, mais que soit il joue avec nous ou quoi, mais qu'il a peut-être pas encore signé le fameux contrat pour combattre Liskerov. En fait, c'est terrible, et c'est là où ils sont aussi forts, l'UFC, dans les techniques de négociation, mais c'est que là, c'est horrible, parce que là, c'est Paulo Costa qui nous énerve, alors qu'au fond, si jamais lui, il est en mode, bah non, j'ai pas envie de combattre Liskerov, vous m'aviez dit Khamzat, j'étais chaud pour Khamzat, donnez-moi Khamzat, et puis on arrête de jouer, quoi. Mais, puisque médiatiquement et publiquement, donc, il ressort que Paulo Costa, encore une fois, fait des siennes pour ne pas combattre, et qu'on n'en sait rien... C'est Paulo Costa qui nous énerve, et alors que là faut qu'on soit énervé contre quelqu'un, on sait juste pas contre qui en fait, parce que moi j'ai envie d'être énervé contre Paulo Costa, mais je crois pas qu'il y soit pour grand chose, dans le sens si effectivement on lui a proposé le contrat qu'il en mode, bah non, bah de la même manière que moi j'étais un peu vénère quand j'ai appris que le combat se faisait, bah ça se trouve lui-même en mode bah non, j'ai rien à y gagner, pourquoi le faire, etc. Donc on ne sait même pas encore en fait si ce combat aura lieu pour Paulo Costa de toute manière.
Après, c'est toujours bien. Moi, c'est juste ça là où ça commence à m'agacer un petit peu avec Paulo Costa. Non, mais tu vois, il est combattant, il est dans ses meilleures années. Ok, ah ouais, c'est bien de poster les mimes sur Twitter, de faire rigoler tout le monde. Mais moi, je le suis et je l'apprécie, Paulo Costa, aussi parce qu'il est combattant, tu vois. Et j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus actif. Et puis surtout de se dire qu'aujourd'hui, comme on avait pas Paulo Costa, ouais, il y a une stat qui est sortie, Rusty. Il a aucune victoire sur un combattant actuellement dans le roster UFC. Voilà. Quand on y pense, quand on se pose 30 secondes et qu'on s'assoit bien, qu'on se dit le mec est 5e mondial et actuellement il a battu personne qui est dans le roster UFC.
Ouais, c'est vrai que ça la fout mal. Parce que oui, certes, il a fait un très gros combat contre Marvin Vettori, mais en plus, c'était un combat. Les conditions du combat étaient quand même assez charlatanesques. Donc, le combat était beau, mais il s'est ramené avec 10 kilos de trop aussi, donc ça aide. Donc, ouais, non, c'est... Je suis d'accord avec toi. À la limite, c'est vrai que sur ça, par contre, on a le droit d'être frustré et que ça nous énerve, parce que ça, c'est comme disait Cowboy Cerrone, en fait, t'as un job quand t'es combattant. C'est même pas limite d'arriver avec un certain niveau au combat, c'est juste de faire le poids et de rentrer dans la cage. Et c'est vrai que ça... Le problème, c'est qu'il est trop, il est marrant, en fait, cet enfoiré. Donc, quand il avait fait son truc avec Vettori, il avait tourné ça d'une manière qui était vraiment drôle. En mode, mais pourquoi, toi, ça te pose un problème de combattre des mecs plus lourds? Moi, je m'en fous de combattre des mecs plus lourds, je combats tout le monde. Pourquoi? Enfin, il avait retourné le truc comme à son habitude. Mais c'est vrai que quand même, au bout d'un moment, c'est relou parce que, un, c'est pas professionnel. Et deux, on le voit quasiment jamais combattre. Et quand on le voit combattre, il fait des dingueries. Donc, c'est vrai que ça va.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ça va vite dans le football et j'ai très peur effectivement que d'ici quelques mois, si jamais on a eu des propositions... Que ça fasse un peu comme John Jones avant qu'il combatte en poids lourd, où chaque année on était en mode maintenant c'est Pierre et le loup en fait, soit on y croit plus, donc c'est juste chiant quand il y a des news qui disent Paulo Costa va peut-être combattre, on n'y croit plus et c'est chiant quoi.
Et surtout qu'on a eu les exemples dernièrement avec Nate Diaz et Francis Ngannou qui étaient en conflit ouvert avec l'UFC, qui eux ont combattu, qui se sont imposés et qui donc ensuite ont eu la main. Donc c'est pas comme si c'était une situation pour lui qui était sans issue et que le seul moyen c'était de ne pas combattre. Parce que il déglingue un gars comme ce qui était prévu contre Robert Whittaker. Je veux dire, il tape Robert Whittaker, l'UFC dans une situation, c'est très compliqué. Parce que même s'il vient à partir ou à faire de la boxe, comme à un moment il voulait boxer Jack Paul, c'est l'UFC qui en pâtit et non lui.
Et d'autant plus que là, il était dans une situation potentiellement similaire à Nate Diaz ou Francis Ngannou il y a quelques temps, parce qu'il lui restait qu'un seul combat, qu'il était en mode, bah moi je peux très bien attendre jusqu'à, je crois que c'était le mois de mai de cette année, etc., et je serai libéré de mon contrat. Mais selon toute vraisemblance, il ne l'a pas fait et il a re-signé un nouveau contrat. Donc en plus, c'est vrai que c'est frustrant parce que tu dis, bon, bah donc c'est bon. En fait, si tout se passe bien, bien sûr, l'UFC peut mettre des douilles en te mettant un mec qui n'est même pas classé ce qu'ils ont fait. Mais c'est vrai que si tu re-signes, je sais que c'est cruel ce que je vais dire, mais si tu re-signes et que donc après tout ça, tu es en mode bon, bah ok, je reviens avec vous, c'est bon, j'ai signé mon contrat et j'y vais, c'est pas que t'es obligé de rien, mais c'est quand même un peu différent quand tu recommences à faire des siennes alors que t'as eu l'occasion de vraiment quitter le navire, quoi.
Complètement d'accord, Billy Rusty. Avançons. Avec, donc là, on était à l'UFC 294 du mois d'octobre avec les deux bangers annoncés. Je m'inquiète quand même potentiellement pour ça, donc on a novembre, décembre, c'est ce qui se trame aujourd'hui, Dana White en a récemment parlé. Donc on aurait Jon Jones contre Stipe Miocic au Madison Square Garden, UFC 295 à New York, le dernier combat de la carrière de Jon Jones, il le veut, il en a déjà parlé, donc selon toute vraisemblance, ça ne dépend que de Stipe Miocic. Et donc moi aujourd'hui je suis dans une situation où je me dis c'est sûr qu'on aura Jon Jones, la question c'est est-ce que ce sera Miocic ou... Pavlovich, ou en gros un autre lourd face à Jon Jones, mais il y a tellement d'éléments qui sont réunis pour que ce soit le dernier combat de Jon Jones et que ça se passe très bien, que je vois mal l'UFC gâcher cette opportunité, surtout au regard des chiffres qu'ont fait l'UFC de mars de Jon Jones, plus gros pay-per-view en un an de la part de l'UFC et cinquième plus gros total en termes de billetterie dans l'histoire de l'UFC.
Bah ouais, d'autant plus que Miocic, il a un passif avec l'UFC d'avoir un petit peu clashé quand même et d'avoir voulu aussi défendre ses intérêts. On se souvient que quand il avait affronté Overeem ou un truc comme ça et qu'il était moins bien payé qu'Overeem en tant que champion, il avait grincé les dents et a raison. Mais donc voilà, il a un passif avec l'UFC d'avoir un petit peu tapé la tête et d'avoir fait du front contre front. Donc on ne sait pas, les relations ça va, ça vient et peut-être que l'UFC maintenant est en très bonne relation avec Miocic. Mais n'empêche que il n'a pas une relation qui est complètement parfaite non plus, en tout cas historiquement. Et d'un autre côté, je pense que là, ils savent, l'UFC, qu'ils ont les cartes en main pour, de toute façon, tu mets Jon Jones contre mon boulanger, ça marcherait, puisque c'est le dernier combat contre Jon Jones, qui ressort d'une performance contre Cyril Gane qui est absolument extraordinaire. Donc, avec Stipe ou sans Stipe, ils n'auront aucun problème à cartonner avec un event sur lequel il y aura le dernier combat de Jon Jones. Donc, s'il est trop gourmand ou qu'il est un peu relou en négociation, en tout cas à leur sens, l'UFC, bah, ce sera chiant pour Jon Jones parce que lui, ce qu'il veut, c'est un gros nom pour finir sa carrière. Et quel meilleur nom que Miocic si ce que tu veux, c'est un nom historique. Mais je pense qu'au bout d'un moment, si ça patine trop dans les négociations et que ça se moule trop, bah, je pense que Jon Jones lui-même sera en mode bon, bah, tant pis pour Miocic en fait. Il aurait pu avoir un payday à plusieurs millions. Bah, c'est pas Rich qui l'aura et puis il va se faire foutre, quoi.
J'aurais pas pu le dire plus poliment, Billy Rusty. Et puis surtout que, mine de rien, Stipe Miocic, il reste sur une défaite contre Francis Ngannou en mars 2021. Donc le temps passe quand même. Et pour finir en décembre, c'est le souhait de Dana White, le souhait de tous, toute la planète MMA, le grand retour de Conor McGregor pour l'UFC 296 contre Michael Chandler. Apparemment, McGregor l'a dit aussi, sa situation avec l'USADA, donc l'agence antidopage américaine, est résolue. Moi, je veux vraiment que ça arrive au mois de décembre. Je veux que ça arrive en 2023 parce que sinon ça ferait très très bizarre, d'autant plus s'il perd. Moi je crois plus à une victoire de Conor McGregor, et s'il perd, enfin si en tout cas le combat est encore décalé, ça fera que le dernier combat de Conor c'était en juillet 2021, prochain combat 2024 si ça se fait pas en décembre, ça fait très mal, enfin en termes de chiffres, en termes de délai. Là je sais pas si vous avez regardé le documentaire McGregor Forever sur Netflix, on voit que c'est compliqué parce qu'il a une vie autour du MMA, on voit qu'à côté, même s'il y a évidemment de la com aussi, mais les mecs n'ont que ça. Je veux dire, Michael Chandler aujourd'hui, vous lui enlevez sa carrière de combattant, il n'existe pas, enfin quand je dis il n'existe pas aux yeux du aux yeux du
tempérant peut-être quand même. Sa femme, son gosse, non, il n'existe pour personne.
aux yeux du
tempérons un petit peu mais, aux mais yeux, oui sportivement
aux yeux du grand public il
du grand public
il n'existerait pas alors que Connor il a beaucoup plus d'intérêt que sa carrière de combattant et donc là il affronte quand même un Michael Chandler si on reste sérieux hein, parce que je sais qu'avec Conor McGregor c'est quand même la tendance aujourd'hui c'est de troller de se moquer un peu du gars. Chandler c'est un top 5 mondial ok à l'UFC il a autant de victoires que de défaites mais faut voir à chaque fois contre qui et surtout toutes ces défaites bah il a mis salement les mecs dans le mal. Enfin vous regardez les combats contre Charles Oliveira ou contre Dustin Poirier, vous sélectionnez un moment du combat, vous pouvez très et vous appuyez sur pause, vous pouvez être convaincu que le mec allait les mettre KO. Donc non franchement là c'est un vrai gros test pour Connor. Moi je veux que ça arrive là parce que au moins en fait on va savoir et je veux même tu vois juste plus Rusty me dire et là déjà j'ai fait la paix avec le est-ce que Prime Connor va revenir. Il ne va pas revenir, ça y est, je suis en paix avec ça. Mais je ne veux plus être à me dire est-ce qu'on va revoir Connor combattre. Je veux juste le voir rapidement, ouais. Qu'il perde et au moins comme ça on tourne vraiment la page comme aujourd'hui, tu vois. Là l'UFC ils organisent Tony Ferguson contre Bobby Green, ça y est. Moi je suis content de revoir Tony Ferguson mais j'ai plus cette petite idée en moi qui me dit peut-être qu'il va refaire un non, c'est fini. C'est fini là, il combat que pour le plaisir, c'est terminé. On a beau être fan de Tony Ferguson, on a beau tous l'apprécier, ses meilleurs jours sont derrière lui et là aujourd'hui, il ne peut que espérer, tu vois, faire un beau highlight pour terminer sa carrière, mais il y aura plus de run sportif vers la ceinture.
Ouais, non, complètement. Et puis pour ceux du coup qui savent peut-être pas ce que ça implique quand tu dis qu'il a recommencé à être avec l'USADA, c'est l'agence antidopage. Il faut 6 mois lorsque tu reviens dans ce qu'ils appellent le pool. Donc, traduit grossièrement, c'est la piscine, mais en gros, c'est lorsque tu reviens dans le... Comment est-ce qu'on pourrait dire d'ailleurs? Enfin, lorsque tu te remets dans leur liste d'athlètes testés et actifs et considérés comme actifs pour les tests antidopage et donc éligibles à combattre. Et il faut 6 mois aux dernières nouvelles. Alors c'était 6 ou 4, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'est minimum 4 et je crois que c'est 6 mois lorsque tu reviens dans cette fameuse liste de combattants considérés actifs et pour lesquels, du coup, tu deviens éligible à combattre. Donc, c'est pour ça qu'on parle de minimum fin novembre, si ce n'est décembre. C'est parce que, bah, donc, si on prend ce délai en compte, et que là, il est effectivement bien revenu dans le pool de test de l'USADA, bah, il sera tout simplement pas éligible à combattre avant. Et non, je suis d'accord avec toi, c'est bah, de toute façon, maintenant, on... Et tu vois, c'est marrant parce que je me souviens que quelques années avant, je me souviens des podcasts qu'on faisait quand c'était le Prime McGregor, où on disait, faut vraiment qu'on en profite, parce que c'est une étoile filante, que ça ne durera pas. Et je crois que c'était dans le podcast pour Alvarez, où on se disait, faut vraiment qu'on profite de ce qui se passe maintenant, en fait. Parce que... ça ne peut pas durer un Connor comme ça parce que c'est un conquérant, parce que machin. Ben voilà, là on en a bien profité et on en est au moment où, comme tu le dis, on a fait un peu la paix avec revoir le Connor magicien, etc. Là on est plus dans la phase effectivement un peu plus peut-être Tony Ferguson, un peu plus BJ Penn lors du début de la fin où on a juste envie de croire un peu à la magie mais pas qu'il gagne nécessairement, juste qu'il arrive à faire des trucs de fou le temps de quelques gestes, le temps de quelques minutes. Et puis voilà quoi. Et là, puis que ça crée quelque chose de fou le temps de quelques semaines avant.
Mais oui, et puis là, juste une victoire. Pour moi, juste une victoire contre Chandler, tout le monde oubliera ce qui s'est passé. Parce que rendez-vous compte, le mec a une fracture, double fracture traumatisante. Vous revenez après 2 ans en ayant survécu à ça. Faut que je me calme, moi. vous arrivez à revenir parce que, par exemple, Chris Weidman n'est toujours pas revenu. Anderson Silva, à partir du moment où il a eu cette fracture-là, n'est jamais revenu au niveau qu'il avait précédemment. Connor revient, tape Michael Chandler qui est top 5. C'est, en soi, ça vaut pas une ceinture, bien évidemment, mais c'est une fin en apothéose pour un mec comme Connor McGregor. Et tu vois, juste ça, pour moi, la boucle sera bouclée. Et là, vous avez vu, il a fait tout un documentaire en 4 parties sur toutes ces années assez compliquées. Ne serait-ce que l'histoire du retour de Connor McGregor entre le moment où il fait sa double fracture et le combat contre Chandler, et qu'en plus, ça se passe bien contre un mec surentraîné qui est en plus hyperactif à l'UFC... Là, on pourra vraiment dire, même la nouvelle génération qui découvre Conor McGregor aujourd'hui, que c'est un véritable athlète. Parce que ce sera vraiment une gageure quand même. Parce que, enfin, revenir contre Chandler, réussir à le battre avec tout ce qu'il a vécu entre-temps, Conor McGregor, et même, tu vois, montrer aussi, c'est ce que moi je regrettais un peu dans le documentaire Netflix, c'est qu'il n'y ait pas une vraie... qu'on nous montre pas vraiment tous les excès de Connor. Il en parle, il suggère ça, c'est vraiment, on est très en surface, mais on voit pas exactement ce qui se passe. Alors que là, vous voyez très bien Connor, toutes ses stories, vous voyez la différence de niveau de vie entre un combattant MMA à part entière et Connor McGregor, ne serait-ce que revenir à ça, enfin, se dire, vous pouvez être combattant MMA 5 semaines avant d'affronter Michael Chandler et quand même le battre, rien que ça, ce serait complètement dingue. Mais bon, il y a aussi la réalité du terrain qui, oui. Je pense que ça sera compliqué pour Michael Chandler, mais voilà, pour moi ce serait superbe, pour l'UFC aussi je pense que ça permettrait de finir cette année, cette 30e année en apothéose, j'y crois de la part de l'UFC, et d'autant plus qu'avec le PFL là, il faut qu'ils mettent les points sur les i, ils disent bon, les gars, on vous a laissé jouer avec vos crottes de nez 30 secondes, maintenant on va montrer qui sont les patrons.
La récréation est finie, ouais. Ben non, c'est pour ça. Et en plus, c'est terrible parce que là, il y a le Ultimate Fighter qui va bientôt commencer. Il commence là, ben, je crois, en fin de ce mois-ci. Donc, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir des perles de Conor McGregor, qu'il va y avoir des moments légendaires. On va être comme des groupies. On va être comme dirait dans Reservoir Dogs, comme une volée de pucelles dans le dortoir. Donc, on va kiffer. Et c'est pour ça que, voilà, profitons aussi de ce dernier run. Ne serait-ce que l'extrait là où il fait... Donc, moi, je vais peut-être te combattre. Ah, je sais pas, c'est Connor qui dit ça à Michael Chandler. Ah, je sais pas, peut-être à 84 kilos, qu'est-ce que t'en penses? Et Chandler qui fait, ah, 84 kilos, bah, moi, je suis prêt. Toi, tu veux 84 kilos? Et Connor qui fait comme ça en même temps, qui marche, qui ne le regarde même pas. Mais tu feras ce qu'on te dit, de toute façon. Et c'est tellement stylé. Et c'est horrible, mais tu peux pas t'empêcher de trouver ça stylé. On peut ne pas l'aimer, Connor McGregor, mais ses faces, ses punchlines et le charisme, bah, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est là et c'est ce qui fait vendre.
Allez, réponse d'ici. Quelques mois, Big Rusty. Shout out, I'm a sweet pea.
My sweet protein.
Moins 30% sur tout my protein avec le code la sueur. See ya.
I'm fucking coming for you!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.